Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard à Sans détour avec vous le 1er février 2021. Le 1er février, plusieurs encore se sont dit ce matin, déjà février, où est passé le mois de janvier? Bien, tant mieux si le confinement passe rapidement pour certains, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous allons parler à Mme Brigitte Bergeron de la ville de Saguenay. La ville de Saguenay est finaliste pour un prix à part entière remis par l'Office des personnes handicapées du Québec pour la création d'un guide, très complet destiné aux personnes handicapées de la ville de Saguenay. Nous allons parler également à M. Samuel Benamron, qui est propriétaire physiothérapeute d'une clinique assez spéciale, une clinique qui fait de l'inclusion dans son milieu de travail. Donc, il y a des gens qui vivent en situation de handicap qui travaillent. M. Benamron veut répandre la bonne nouvelle et amener d'autres entreprises à aussi devenir inclusives. Et nous aurons avec nous M. François Côté et cofondateur de l'entreprise TurboMed avec son associé, M. Stéphane Savard. Ils ont créé des orthèses spéciales pour des cas difficiles qui ont permis à des gens qui ne pouvaient pas marcher de courir. Alors, tout ça à Sans détour. Voilà, donc nous avons au bout du fil Mme Brigitte Bergeron. Mme Bergeron est conseillère municipale de l'arrondissement de Chicoutimi, présidente de la commission services communautaires, vie de quartier et développement social de la ville de Saguenay. Ouf, ça fait long, Mme Bergeron. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Bon. C'est long, mais c'est beaucoup de travail aussi.
Bien, c'est ça, je pense, si on regarde chacun des aspects de votre mandat. Alors, la ville de Saguenay est en liste pour gagner un prix parce que vous avez fait quelque chose qui a demandé certainement du travail et qui est certainement utile. Parlez-nous-en un peu.
Oui, c'est le guide des services qui est offert aux personnes handicapées. Mm-hmm. Donc, il est vraiment complet. C'est sûr que ça s'est fait avec vraiment la collaboration de tous les organismes qui travaillent pour les personnes handicapées, avec les communications, avec, tu sais, il y a eu beaucoup de consultations pour savoir ce que ce guide devait comporter. Mm-hmm. Puis ça a vraiment donné un beau produit parce qu'il est facile à lire, il est coloré, il est vraiment utilisé, le monde il l'aime beaucoup. Mm-hmm. Puis ça comporte. Oui.
Ben, j'allais dire, il est volumineux, votre guide, parce que en le parcourant, je me suis aperçu que ça a 108 pages. Là. C'est pas un petit dépliant sur le présentoir dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville. Là. C'est un vrai document.
Oui, c'est un vrai document. Mais quand on l'a en main, c'est pas si gros que ça. Là.
Okay.
Ça n'a même pas un format 8,5-11. C'est plus petit que ça. Donc, c'est très facile à mettre dans sa bibliothèque ou près du téléphone. Puis il y a différentes couleurs dépendant de chaque chapitre. Mm-hmm. Puis on retrouve vraiment tout comme quelqu'un qui a besoin, exemple, transport adapté.
D'accord.
Concernant des informations sur l'habitation. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'offre à toutes les activités de loisir.
Le loisir, oui, c'est ça.
Oui. Ça, c'est vraiment beaucoup utilisé parce qu'il y a de l'accompagnement au loisir qu'on offre aux personnes. Mm-hmm. Puis tout est indiqué. Donc, tout ça permet facilement de savoir tout qu'est-ce qui est disponible.
De s'y retrouver. Parce que c'est pas juste les services offerts par la ville de Saguenay dont il est question. Il est question de toutes les ressources du milieu qui sont disponibles pour quelqu'un de la région dans la ville de Saguenay qui est dans une situation d'handicap, qui cherche des solutions. Alors, c'est bien au-delà des simples services ou des services de la ville. C'est beaucoup plus que ça.
C'est ça. Ça comprend tout quelqu'un qui veut aller en voyage. Mm-hmm. Bon, où est-ce qu'il peut avoir l'information? Où est-ce que c'est accessible pour eux? c'est vraiment vaste, là, comme au niveau de la santé. Mm-hmm. Tous les organismes qui travaillent pour les personnes handicapées, ils ont toutes les références.
Quand vous dites que c'est disponible, c'est à quel format est-ce que ça vient? Est-ce que c'est uniquement papier? Est-ce que vous avez d'autres façons de communiquer?
Non, c'est papier, mais mm-hmm. aussi on l'a, il est accessible sur le site Internet de la ville.
OK.
Donc, puis aussi, on en a toujours, on refait faire des éditions parce qu'il est souvent très demandé. Donc, à chaque année, on réévalue le besoin pour l'avoir papier, mais de plus en plus, le site Internet est utilisé.
D'accord.
On a tout aussi l'infolettre là, aux membres. Mm-hmm. Fait qu'on a un très beau réseau de contacts.
Quand vous dites aux membres, les gens de la qui sont les citoyens de la ville de Saguenay s'inscrivent pour devenir membres?
Oui, bien, c'est ça, on a un lien, là, infolettre. Donc, c'est facile d'accès. En allant sur le site, on peut s'abonner, tout ça. Mais le réseau de contacts pour toutes les personnes handicapées, les organismes qui travaillent, mm-hmm. si eux aussi, ils ont tout un lien là, entre eux pour communiquer.
Et je pense que, moi, personnellement, je suis handicapé visuel. Est-ce que sur votre site, le site est accessible pour une personne qui a une déficience visuelle?
Je crois que oui. Là, je pourrais pas vous dire à 100%. Je sais qu'au niveau des bibliothèques, tout ça, on a tout un système là pour différents genres d'handicap. Donc oui, c'est tout...
D'accord.
C'est la personne, c'est disponible. Mais là, au niveau, là, vous me posez une colle, là, je ne suis pas certaine à 100%.
Bon.
Je ne voudrais pas mettre le monde en erreur.
On va vérifier, puis on va donner la réponse. Ce sera pas long. Les gens de la ville aussi, qui accueillent des personnes en situation de handicap dans les installations de la ville, ben, elles-mêmes, il faut qu'elles soient prêtes à le faire.
Oui. Puis d'ailleurs, on a donner de la formation mm-hmm. pour l'accueil des personnes handicapées. Ça fait 3 ans qu'on donne de la formation. Puis c'est autant par des personnes handicapées elles-mêmes qui donnent la formation mm-hmm. avec ceux des formateurs. Puis c'est vraiment très apprécié. Puis ça sensibilise vraiment les employés de la ville à faciliter leur contact avec les personnes handicapées. Comment s'y prendre pour faciliter... l'approche.
Mm-hmm. Parce que des fois, les gens ont tendance à figer un peu, puis ils veulent bien faire, mais ils ne savent pas quoi faire.
Puis... C'est ça, fait que ça les aide vraiment à faire les bons gestes vis-à-vis des différents handicaps.
Est-ce que là, il y a eu une augmentation de l'achalandage? Est-ce qu'avec ça, vous avez remarqué que dans les installations ou les loisirs, bibliothèques, ainsi de suite de la ville, est-ce que tout d'un coup, vous avez commencer à avoir plus de personnes en situation d'handicap qui se servaient de tout ce que vous avez à offrir?
Mais dans les bibliothèques, on voit vraiment de l'achalandage. Mm-hmm. Au niveau de tous les loisirs, tout ça, là, même l'accès, on a des parcs qui sont accessibles mm-hmm. vraiment. Donc oui, c'est très utilisé, puis c'est très connu. Comme exemple, on a l'immense parc Rivière-du-Moulin qu'on mm-hmm. a même mis à la disposition des vélos adaptés.
Oh, OK.
Ils peuvent louer. Puis, non, il y a vraiment du beau travail qui s'effectue parce qu'on a vraiment un beau plan, puis on suit ça. Puis, c'est toujours en lien avec eux là, qui nous disent c'est quoi mm-hmm. leurs besoins. Fait que c'est toujours mis à jour, puis on s'en occupe vraiment bien.
Vous avez parlé brièvement tout à l'heure du transport adapté. Je pense qu'il y a eu une petite controverse à ce sujet-là l'automne 2019.
Oui, c'est parce que c'était au niveau des frais, là, des mm-hmm. coûts, tout ça. Puis il manquait de chauffeurs, de conducteurs.
Uh-huh.
Mais là, ça s'est arrangé. Là,
bon.
On a réglé le problème.
Bon.
C'est ça. Dès qu'un. On sait que c'est des dossiers quand même assez sensibles.
Mm-hmm.
Parce que eux, c'est le transport adapté, ça leur permet justement d'aller utiliser tous les services de la ville, de se déplacer.
Exact.
Fait que dès qu'il y a quelque chose, on s'en occupe. Puis d'ailleurs, je suis sûre du conseil d'administration aussi de la STF
Aha.
qui s'occupe de ça. Ça fait que c'est sûr que on fait le lien, mais on est tous très sensibles à ça, là, de donner un bon service.
Je pense qu'il n'y a pas juste les élus ou municipaux de Saguenay qui sont sensibles. Vous essayez de sensibiliser la population aussi. Il y a eu des campagnes pour ce qui est, entre autres, du stationnement réservé.
Oui, ça c'est vraiment une grosse campagne qui s'est effectuée. Les policiers étaient dans ça, les organismes. On a fait des gros panneaux géants vis-à-vis les les stationnements pour handicapés. Puis on a tout fait l'inventaire de nos stationnements pour handicapés pour les rendre conformes. Parce que maintenant, tu sais, il y a comme un air de supplémentaire là, pour,
c'est parce que,
pour déplacer de son véhicule, pour débarquer de son véhicule, tout ça.
Exact.
Fait que ça a vraiment tout été mis à jour. Puis il y a eu des campagnes, vraiment une bonne campagne. Puis le slogan, moi, c'est sûr que c'est pas seulement notre slogan, là, mais je le trouve être vraiment bon, là, qui dit « Voulez-vous ma place? Ben, prenez aussi mon handicap. »
Ouais, voilà.
Ça, ça fait réfléchir, hein, ça fait que... Puis aussi, les amendes sont très élevées.
OK.
Puis on les a appliquées. Fait que oui, il y a eu vraiment une amélioration là, que pour sensibiliser la population de ne pas, tu sais, de laisser la
place. Ben oui,
handicapées.
Parce que c'est pas un luxe d'avoir une place réservée pas loin de la porte. C'est une façon d'augmenter l'accessibilité à des services auxquels tout le monde a droit. C'est pas juste pour aller parquer votre pick-up. Que c'est il y a tant de place,
c'est peut-être pour
permettre un fauteuil roulant ou quelqu'un qui a une mobilité réduite là, de descendre sa plateforme puis de pouvoir accéder lui aussi ou elle aussi à l'aréna. Est-ce que toutes les installations de la ville maintenant sont à niveau, sont accessibles?
Je crois que oui, mais ça qu'on avait fini le... parce que ça a commencé c'est là 3 ans.
Mm-hmm.
Fait qu'à chaque année, la première année, on avait tout vérifié, tous les stationnements, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis là, la deuxième année et la troisième, ben, d'après moi, ça doit être terminé. Là. Tous les stationnements sont conformes. Stationnement de la ville, on s'entend.
D'accord.
Fait que oui, ça a tout été repeinturé, puis avec les pancartes.
Puis les bâtiments eux-mêmes, si les personnes ont leur stationnement réservé, c'est bien, ils ont de la place pour. C'est bien indiqué, ils ont de la place pour. Sortir du véhicule, puis là, ils se dirigent vers l'aréna, la bibliothèque, l'hôtel de ville. À ce moment-là, il y a des rampes, il y a une bonne signalisation.
C'est sûr que nous, la plupart des bâtiments, là, c'est sûr qu'il y en reste sûrement à faire, mais je veux dire, tout pour l'accès, vous savez, comme les portes avec les pitons, on a juste à... Tout ça, là, ça a tout été... évalué, là.
Mm-hmm.
Puis on a toute une liste, puis ça va bien de ce côté-là. Mais c'est certain qu'il y en reste sûrement à faire, mais à chaque on voit qu'à chaque année, il s'en ajoute. Comme j'ai en mémoire un pavillon Murdoch, on l'a tout fait, la rampe pour l'accès, rendre ça accessible, tout ça. Les bibliothèques le sont. On travaille. Il y a beaucoup de travail d'effectuer sur ça. Comme je vous dis, on a toujours un plan sur 3 ans.
Mm-hmm.
On suit toutes les étapes. Puis
une fois que le plan va avoir été amené à terme, je suppose que vous avez d'autres projets ou d'autres façons d'inclure les personnes en situation d'handicap à la ville de Saguenay. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Bergeron. Mme Bergeron était avec nous. Mme Bergeron est conseillère municipale. Ça prend du temps à dire, je vais prendre mon élan. Conseillère municipale de l'arrondissement de Chicoutimi, présidente de la commission services communautaires, vie de quartier et développement social de la ville de Saguenay. Ben, je vous remercie beaucoup, Mme Bergeron.
C'est un plaisir. Bonne
Merci.
Journée.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, Moi, je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
François Beauregard, ici de retour à Sans détour, et j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Samuel Benhamron. Bonjour M. Benhamron, comment allez-vous?
Bonjour M. Beauregard, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Oui, Physio Verdun est une clinique de physiothérapie médico-sportive dans la région de Montréal, mais ce n'est pas une clinique tout à fait comme les autres, mais vous aimeriez tant que toutes les cliniques soient comme la vôtre.
Absolument. Effectivement, on n'est pas comme les autres. On a décidé à peu près il y a 5 ans d'engager des personnes neurodiverses à l'intérieur de notre industrie. C'était dans un moment où on voulait à chaque année, on essaie de faire des projets à travers notre clinique pour redonner un peu à la communauté.
D'accord.
On avait acheté des pyjamas pour des enfants en besoin ou on a aidé un centre pour les aider avec des enfants qui ont des troubles d'apprentissage.
Mm-hmm.
Et on avait fait partie on faisait des donations pour un spectacle qui était donné par des acteurs qui avaient tous des déficiences mentales.
Mm-hmm.
Et une partie de la donation était qu'on allait donner aux 21 acteurs une carte cadeau de $100.
D'accord.
Pour leur dire bravo, vous travaillez. Et mm-hmm. donc, quand on a fait ça, j'ai amené mon staff avec moi et on leur a donné individuellement les cartes.
Mm-hmm.
Et on a vu leur réaction. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai dit je dois faire plus, je dois trouver une autre façon. Et c'est de là où l'idée est arrivée.
Parce que participer à un gala ou commanditer un événement ponctuel, mais de là d'engager votre entreprise, ça demandait de votre part un grand pas en avant, puis une conviction, là, c'est tout autre chose.
Oui, et moi, j'y crois beaucoup. Les tâches qu'on a réussi à faire, c'est des tâches qu'on a mis de côté pour nos employés. Il faut pas oublier que c'est quand même une culture de personnes qui sont habituées à se faire dire non.
Oui.
À cause qu'ils sont différents.
Oui.
Et moi, mon objectif là-dedans, c'était quand je les ai engagés, on a commencé avec des tâches super, super simples.
Mm-hmm.
Pour leur donner la confiance et pour leur donner les capacités de croire en eux-mêmes. Et au fur et à mesure qu'ils ont pris cette confiance, ben, on a ajouté aux tâches. Et là, qu'est-ce qu'on a remarqué qui était inattendu, c'est que leur dévouement au niveau du travail a commencé à avoir des effets sur leur vie personnelle,
aussi.
Leur vie sociale, leur vie familiale, les parents qui nous ont communiqué comme quoi que on en a un de nos employés qui était non-verbal quand il a commencé avec nous, à peine s'il pouvait se rendre en clinique tout seul. Et maintenant, 4 ans plus tard, non seulement il se déplace tout seul, il parle avec des petites phrases et il va s'acheter ses propres vêtements au centre d'achat. Mm-hmm. Ceci sont des choses que nous, on fait tous les jours et que ces personnes-là, à travers la confiance qu'ils ont obtenue au travail, ben, ont développé ce savoir de pouvoir aller se gâter eux-mêmes et, mm-hmm. et ils ont leur propre salaire, cette indépendance.
Oui.
Et pour nous, au sein de notre industrie, c'est aussi quelque chose qui a un effet aussi sur mes autres employés au niveau de
c'est vrai, parce que votre clientèle, vous dites médico-sportive, votre clientèle, donc ce sont souvent des gens qui bougent et puis qui n'ont pas de limitation à première vue, votre clientèle, et vos employés eux-mêmes sont des gens qui connaissent bien le corps humain et ce qu'il peut faire. Alors, comment est-ce que votre clientèle, vos employés valides, ont réagi à la présence chez vous de personnes en situation d'handicap?
Honnêtement, chez nous, ça a pris tout le monde à sauter sur le bateau avec moi, si mm-hmm. on peut le dire de cette façon-là.
Ouais.
J'ai une très bonne équipe qui, au fur et à mesure des années, on n'a pas beaucoup de changements d'employés.
D'accord.
On est bon avec nos employés et donc, dans ce cas-là, ça rend ma tâche beaucoup plus facile parce que chaque fois que je présente un projet, tout le monde embarque. Et ça a pris de l'éducation de tout le monde. Ça, je l'ai pris sur mes épaules. C'était quand même mon projet et mon idée, donc je ne voulais pas l'imposer non plus à mes employés. Mais on a établi des barèmes pour nos employés, étant donné que je ne suis pas toujours présent. Il y a toujours une personne présente comme leur personne ressource. Ça crée un environnement de travail mm-hmm. tellement agréable. Et quand on a des dures journées, on les voit, eux, travailler avec le sourire. Et pour nous, on se remet un peu en question en disant, ben,
c'est pourquoi je me plains, moi? Oui.
Exactement. Exactement. Et en plus de ça, je veux dire, en 5 ans, on me pose souvent la question. J'ai jamais eu d'absence, même pas une journée, même pas un retard. Qu'est-ce qu'on peut dire de
plus? Parce que je pense que ce que vous dites là, ça se reflète à peu près dans toutes les situations de travail inclusif. Les personnes qui vivent en situation d'handicap, quand on leur fait confiance, qu'ils développent l'estime de soi, pour eux, cette possibilité de travailler, de se réaliser et d'avoir une vie comme tout le monde, tout simplement, c'est merveilleux et on y tient. On ne veut pas perdre cette occasion-là, puis je pense que le niveau de loyauté, d'assiduité est remarquable de cette façon-là. Combien de personnes maintenant avez-vous à l'intérieur de vos cliniques? Je dis vos cliniques parce que je pense que vous en avez plus qu'une.
Oui, j'en ai plus qu'une. Physio-Verdun est la clinique qui a le plus d'employés. Il y en a 3 mm-hmm. qui travaillent ici. Et on en a une autre qui travaille dans ma clinique à Montréal-Nord, mm-hmm. Physio-Expert. C'est pas rien que ça s'arrête pas rien que là. Il y a en mars 2019, mm-hmm. on a fait un événement parce qu'on a fait un documentaire qui s'appelle Included.
Included, oui, c'est ça.
C'est ça, sur nos 3 employés dans le temps qui travaillaient avec nous. Et c'était vraiment un documentaire qu'on avait fait pour nos employés, pour notre souper de Noël. À chaque année, on essaie de, mm-hmm. de leur montrer le progrès
C'était un projet maison, mais ça l'a rapidement sorti de vos murs, là.
Exactement. On ne s'attendait vraiment pas à ça. On ne s'attendait pas. Et là, on a vu qu'il y avait une envergure et j'ai vu qu'il y avait une opportunité de donner un peu plus d'informations à la population. Donc, on s'est dit, on va organiser un événement où on va montrer notre film et je vais donner une petite conférence de comment nous, on a fait ça. On s'attendait pas, c'était gratuit, on s'attendait pas qu'il y ait peut-être 20, 30 personnes. Il y a 300 personnes qui sont présentes.
300?
Oui.
Standing room only.
Oui, exactement. Et à travers ce processus, rien que ce soir-là, c'est là où j'ai rencontré notre 4e employé qui m'a approché après et qui m'a dit, ben, j'ai entendu dans le documentaire Included que vous n'avez pas de personnes qui travaillent le vendredi. Moi, je pourrais travailler le vendredi. Mm-hmm. Donc, on a fait une entrevue et là, ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec nous.
Le vendredi.
Exactement. Mais encore plus que ça, c'est oui. que maintenant, et ça continue, j'ai reçu plusieurs appels de cliniques de physiothérapie, mm-hmm. mes compétiteurs.
Ouais, vos collègues vos collègues professionnels et compétiteurs, oui.
Exactement. Qu'ils ont décidé, qu'ils étaient là à l'événement aussi qu'on a fait et qui ont décidé d'embarquer dans notre projet et qui ont décidé d'engager aussi, eux, des personnes avec des besoins spéciaux. Et pour moi, ça, ça a toujours été le but ultime. C'est pas rien que moi qui dois le faire parce que j'ai une capacité minimale comparée à la demande. Mm-hmm. Mais d'ouvrir beaucoup plus de portes pour des personnes qui sont capables, pour des personnes qui ont une différente approche et pour des personnes qui vont souvent dire non, mais qui sont tellement contents de travailler. Comme on dit en anglais, rooting for the underdog.
Oui,
pour
exact.
Moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai cru beaucoup parce que on sait pas quoi ça, on a aucune idée c'est quoi le retour quand le underdog il vient et il démontre toutes ses capacités.
Oui, beaucoup de gratitude.
C'est ça.
Exactement. C'est ça. Oui, tout à fait. Et vous avez donc des compétiteurs ou collègues professionnels qui, dans leur propre clinique, ont suivi votre modèle, vous me dites.
Effectivement. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on a eu cet événement et j'ai reçu quelques courriels il y a à peu près 2 mois mm-hmm. en me disant, on a de plusieurs cliniques, en me disant, j'étais à ton événement, on a décidé de prendre quelqu'un en stage et si tout ça fonctionne, on va décider de l'engager. Est-ce que tu peux nous aider et nous guider comment ça fait les affaires? Parce que je l'ai toujours dit, offrir une position, c'est la chose la plus simple.
Oui.
C'est facile d'ouvrir une position. C'est de garder vos employés et de trouver des façons de travailler individuellement avec eux pour qu'ils puissent maximiser leur potentiel. C'est ça le plus important. Et c'est là où tout le travail doit être fait. Parce qu'il y a autant de dommages qui peuvent être faits si on engage quelqu'un, mais on met pas notre énergie là-dedans. Mais moi, j'ai toujours eu cette mentalité, que ce soit avec du neurodivers ou que ce soit avec un patient ou que ce soit avec mes employés. C'est comme quand on dirait si Apple n'aurait pas mis toute cette énergie sur leurs ordinateurs, ben, ils ne seraient pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Ben, si j'aurais pas mis toute mon énergie dans mes employés, ben, je ne serais pas où je suis non plus.
Parce que vous pouvez maintenant partager votre expérience, parce que c'est certain qu'au début, vous avez eu un peu de tâtonnement de savoir quoi faire, comment faire. Mais maintenant, ça marche et vous êtes capable de le prouver. Alors, bien, je suis content d'avoir eu le temps de vous parler, M. Samuel Benhamron, qui est physiothérapeute, mais surtout propriétaire de Physio Verdun, un exemple qui balise le chemin pour nous amener à une société plus inclusive. Bien, merci beaucoup, M. Benhamron. Ça m'a fait plaisir.
Merci à vous et passez une belle journée.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour et aujourd'hui, on va parler maintenant de sport, d'accidents, d'amitié, de solutions, de partenariats, de succès d'entreprise, tout ça en même temps, avec M. François Côté, cofondateur de l'entreprise TurboMed et son associé M. Stéphane Savard. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Je pense que l'idée, on va commencer par l'accident, puis après ça, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Comment ça a commencé, oui. M. Côté?
Tout a débuté avec un accident de motoneige malheureux que j'ai eu. J'ai eu les deux jambes brisées, cassé les tibias, les deux genoux disloqués.
Ouf.
Et là, ça a entraîné, dans le fond, la coupure du nerf sciatique là, sur le côté de la jambe. Ça a entraîné plusieurs choses, mais dont la coupure du nerf sciatique qui a provoqué le pied tombant. Le pied tombant, mm-hmm. c'est une paralysie, là, dans le fond, le muscle releveur du pied, là, le muscle qu'on a devant la jambe.
Oui.
Je peux plus l'actionner pour tenir mon pied en l'air quand je marche. Donc, mm-hmm. on doit toujours compenser là, pour pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit.
Là, vous êtes obligé d'être sur l'autre jambe puis de faire un mouvement de la hanche pour soulever, je dirais de façon inhabituelle, oui. la jambe qui doit remonter, mais parce que le pied lui-même le fait pas.
Le pied, exactement, c'est ça. C'est un peu comme si je pointais toujours le pied, descend mm-hmm. tombe par gravité. C'est un peu comme si j'avais un pied d'un côté qui était un peu comme une ballerine, si on veut.
Oui,
les pieds
oui.
sont complètement en bas. Là, je ne suis pas capable de le remonter. Puis l'autre jambe, elle est normale. Alors, on doit compenser, lever la hanche, lever l'épaule pour que ça passe bien, là, si on ne veut pas s'enfarger.
Vous êtes un sportif, alors ça ne l'a pas très bien à donner.
Non, c'est ça, exactement. J'étais sportif là, beaucoup avant l'accident et encore, on dirait encore plus
aujourd'hui.
Après l'accident. Oui, encore aujourd'hui, certainement. C'est ça. Alors, ils m'ont proposé des orthèses là, après l'accident. Et puis ces orthèses-là peut-être pas vraiment adaptées là, pour bouger là, beaucoup avec, mm-hmm. avec le pied tombant.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à dire, je vais m'en faire une orthèse?
Oui, c'est un peu ça, parce que les orthèses conventionnelles, si le monde, c'est peut-être un peu abstrait pour eux, s'ils veulent voir, vous allez sur Google voir orthèse de pied tombant. Alors, vous allez voir que c'est ni plus ni moins qu'une équerre de plastique qui est, il y a une partie là, qui fait un peu comme la semelle pour soutenir le dessous de votre pied. C'est vraiment rigide.
Ça passe derrière le talon, puis ça remonte comme oui. derrière. En fait, c'est comme pour toujours maintenir votre pied artificiellement à 90 degrés.
À 90 degrés, c'est ça, mais là, c'est rigide, donc on peut pas pousser par en bas quand on descend les escaliers. Mmh. Et aussi, il y a beaucoup de contacts de plastique avec la peau. Oui. Alors, ça fait que...
C'est comme marcher avec des bottes de Frankenstein.
Un peu, oui, c'est ça. Comme si vous aviez un plâtre un peu.
Oui.
Parce que c'est vraiment rigide. Puis le pied tombant, ben c'est sûr que c'est une condition neurologique. Moi, le nerf est coupé. Alors, j'ai tout le côté de la jambe qui n'a pas de sensation non plus. Mm-hmm. C'est quand même dangereux de se blesser.
Parce que votre orthèse, elle doit faire une orthèse traditionnelle, elle va frotter, puis ça va créer des plaies aussi. Puis ça, vous le savez pas parce que vous le sentez pas.
Exactement, c'est ce qui est arrivé là après mon premier marathon. Mm-hmm. J'ai voulu faire un marathon pour me prouver que j'étais bien guéri. Alors j'ai dit on fera pas ça à moitié. Mais à la fin de la course, j'ai enlevé mon soulier puis j'avais Ouf. Presque plus de peau sur le talon. Mais je l'avais jamais senti. Alors c'est pour ça qu'à ce moment-là, là, j'ai dit c'est le temps de penser à une solution là. Puis j'ai fait des choses là dans mon garage comme un bon débrouillard. Puis après ça, j'ai rencontré Stéphane Savard.
Ben oui, Monsieur Savard, vous de votre côté, comment vous avez embarqué dans ce projet-là? Est-ce que vous avez des compétences en design industriel? Êtes-vous orthopédiste? Comment ça a commencé?
Non, moi, je suis orthopédiste de formation. J'étais propriétaire. J'ai grandi dans l'entreprise familiale qui était Savard Orthoconfort, l'ancien nom prothèse orthèse Savard. Et donc, moi, des orthèses traditionnelles de pied tombant, des équerres à 90 degrés, j'en ai vendu beaucoup, j'en ai ajusté beaucoup. Il faut comprendre qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mm-hmm. François, il a vraiment sorti de la boîte, comme on dit. Puis mm-hmm. il a dit, ben moi, il faut que je trouve quelque chose qui fonctionne autre que des équerres. Alors il a travaillé fort, puis on est arrivé, il est venu me voir avec une idée. Puis de là, ben on a mis un peu d'argent, on a mis du temps, puis ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 mm-hmm. ans de développer notre orthèse qui est complètement différente. C'est une approche finalement totalement différente de ce qui existe. C'est-à-dire qu'au lieu de tenir la jambe juste à 90 degrés, on remonte le pied, mais en plus de ça, on laisse tous les autres mouvements de la cheville libre.
Ah, d'accord.
Le fait d'être à l'extérieur de la chaussure, ben on vient éliminer les chaussures plus grandes, on vient éliminer les plaies. On vient éliminer toutes les ampoules, on vient éliminer les cassures parce que notre orthèse, elle bouge. Mm-hmm. On rend le port de sandales, de bottes, les bottes d'hiver, bottes de travail, beaucoup plus facile.
Possible, ben oui.
Alors, c'est pas mal tout ça qu'on vient régler, là.
Et donc, vous venez d'une famille d'orthésistes. Je pense que vous êtes, M. Côté, M. Savard, juste pour vous situer, vous êtes dans la région de Québec. Mais votre entreprise, TurboMed, maintenant, ça a explosé, là, parce qu'il y a des pieds tombants, il n'y a pas celui de M. Côté dans le monde.
Ah non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de pieds tombants. En fait, en Amérique du Nord, là, on parle d'à peu près une personne sur 300 qui a un pied tombant.
Okay.
Puis le pied tombant, donc aux États-Unis, on parle d'à peu près 1,5 million d'Américains qui ont des pieds tombants. C'est un très, très gros marché. Dans le domaine de l'orthèse, on fait beaucoup d'orthèses de genoux, on fait beaucoup d'orthèses de poignets, mais on fait aussi beaucoup d'orthèses de pieds tombants. Mm-hmm. Alors moi, je viens de, on est de Québec tous les deux, puis François puis moi, ben on s'est bien complété parce que François est ingénieur de formation,
D'accord.
ingénieur naval. Alors donc il y a des principes mécaniques, il mm-hmm. les a tous, c'est un débrouilleur. Puis moi, ben j'avais le côté où est-ce que je connaissais l'orthèse. Mm-hmm. Et j'avais aussi, à travers mes magasins, j'avais un certain volume là, pour essayer nos prototypes. Là. Donc, mm-hmm. On a fait une bonne équipe.
Puis là
ben, aujourd'hui, ça fait après 5 ans, on vend dans à peu près dans plus de 26-27 pays avec des distributeurs. Et depuis quelques temps, depuis 5-6 mois, on est maintenant couvert par la RAMQ.
Ah, d'accord. Alors, quelqu'un qui... on peut faire donc une preuve d'un besoin médical et votre orthèse est reconnue comme étant valable pour, je dirais, les ajustements nécessaires et tout ça. Donc, le matériel peut être couvert par la RAMQ. Bien, ça, c'est important.
Oui.
Parce que votre produit n'est pas simple. Là. On ne parle pas juste d'un équerre en plastique. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais vous l'avez testé, M. Côté, parce que vous courez des marathons avec ça maintenant. Pas juste l'affaire d'arracher la peau de votre talon, là, maintenant, vous êtes au-delà de ça.
Non, c'est ça, exactement. Même pendant... Malheureusement, je ne peux plus courir à cause de mes genoux, mais je marche.
Okay.
Je trekke en montagne. Je fais beaucoup de marches sur des sentiers très abrupts, 1 heure, 2 heures par jour, de la raquette, toute l'équipe. Mais j'ai couru jusqu'à quand même 2016. Là, je dirais que j'ai couru une quinzaine de marathons. J'en ai fait jusqu'à 4 par année.
Mm-hmm.
Puis avec les prototypes flexibles puis à l'extérieur de la chaussure, écoutez, ça a été... Le pied tombant, j'y pensais même plus. Là, ça m'a redonné ma jambe puis ma façon de courir et marcher fluidement, normalement, ça m'a tout ordonné ça là, assez rapidement. La grosse différence aussi, la turbomètre, parce que je sais que c'est un peu abstrait, on est comme à la radio, les équerres rigides à l'intérieur, c'est une chose, mais la turbomètre, elle est comme conçue comme un genre de ressort, si on veut, exosquelettique. Alors, tout est à l'extérieur, il n'y a pas de contact, mm-hmm. mais on parle de ressort, donc on parle un peu de flexibilité. Si on est capable de pousser avec la jambe par en bas, ben là, quand on court, il faut se propulser, ben là, on est capable de le faire. Si on marche sur un sentier où le pied doit s'adapter aux inégalités du sol, là, on est capable. Avec les équerres rigides, écoutez, là, c'est comme vous avez une botte de ski alpin.
Exact.
Je vous dis, allez marcher dans le bois, descendre.
Oui, mais vous allez verser tout de suite, là, ça.
C'est ça. Il y a tout le système de balance, je dirais l'équilibre naturel. Quand on marche, on a besoin de sentir les inégalités du sol puis d'épouser le sol, pas d'être complètement barré à 90 degrés. Alors, le flex de toute l'orthèse, comme un ressort, ça redonne la jambe, ça redonne l'équilibre, ça redonne une démarche fluide, contrairement à tout ce qui s'était fait dans les 50 dernières années.
Est-ce que vous avez été... Parce que le pied tombant, c'est une application possible, mais toutes les personnes sont différentes. Vous devez avoir eu des clients qui avaient des besoins qui n'étaient pas communs. Puis, c'est pas tout le monde qui court des marathons, on en convient.
Exact. Ce qui est particulier ici, c'est qu'on a inventé l'orthèse pour que François puisse courir et revenir actif. Puis ça a fonctionné. Sauf qu'on a réalisé au bout de 3-4 mois seulement que l'orthèse, elle faisait finalement à monsieur tout le monde, quelqu'un qui avait sclérose en plaque, un ACV, une maladie dégénérative. À titre d'exemple, la semaine dernière, j'ai ajusté à domicile une orthèse à un monsieur qui avait 96 ans.
D'accord.
Cette semaine, je vais aller en faire un autre monsieur à domicile, puis il a 87 ans.
Mm-hmm.
Donc, c'est des gens qui évidemment ne courent pas de marathon, puis ne sont pas plus actifs que vous et moi, mais qui portent depuis 50, 60 ans des orthèses en plastique à 90 degrés, puis qui veulent finalement être confortables, être capables de mettre des bottes, puis plus faire de plaies. Donc, je dirais que 99% de notre clientèle, c'est monsieur tout le monde qui n'est pas un athlète.
C'est pas nécessairement des orthèses de performance, mais en même temps,
non.
Ce n'est pas nécessairement que le pied tombant qui peut être corrigé avec votre produit.
Bien, je vous dirais les gens qui se renversent la cheville, ça peut aider, mais je vous dirais que plus que 99% des gens qui utilisent notre orthèse, c'est pour le pied tombant.
D'accord. Mais qui peut avoir le pied tombant, lui, pouvant avoir une origine qui est autre qu'une rupture du nerf sciatique.
Ah, ben oui, ben là, des
options,
il y en a plus de 100.
Mm-hmm.
Donc, les plus communs, on va penser à un ACV. Les gens qui paralysent d'un côté, ben, ils vont avoir un pied tombant.
Ah, d'accord.
La sclérose en plaque, ça commence avec des pieds tombants.
D'accord.
Il y a des chirurgies au niveau du dos.
Mm-hmm.
Le médecin, il répare les disques, les os, il accroche le nerf. Chirurgie au niveau du remplacement de hanches, les remplacements de genoux, ils font la chirurgie, mais il y en a un cas sur 1000 qui vont accrocher le nerf, ils vont avoir un pied tombant.
D'accord.
On peut même avoir un pied tombant temporaire suite à une compression du nerf. Puis on peut avoir un pied tombant même à la naissance.
Oh, OK. Vos clients les plus jeunes, avec quel âge?
On a une version pédiatrique, puis on a fait 3 ans, 4 ans, oui.
Alors, oui. Une fois que vous avez trouvé cette application-là, que vous avez été capable de courir de nouveau, M. Côté, comment vous occupez votre temps? Est-ce que vous voulez maintenant parcourir le monde pour aider tous les gens qui, comme vous dans le passé, étaient pris avec des orthèses en équerre?
Oui, quand même, c'est ça. C'est une compagnie qui est... Là, on est rendu international. Alors,
exact.
C'est ça qui dit international, dit... aller faire voir notre produit à l'international. Donc, oui, ça a été beaucoup de voyages. Là, c'est certain que maintenant, avec l'épidémie, la pandémie qu'on
vit...
Oui,
disons que de ce temps-ci, c'est autre chose, là, mais là, ouais, ça va revenir.
On ne voyage plus, mais oui, on a été en Asie quelques fois, on a été souvent aux États-Unis, en Europe, on a fait vraiment le tour, et on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de professionnels, beaucoup de grosses compagnies, écoutez, là, puis on fait des congrès. C'est vraiment très enivrant, c'est très, très motivant là, de montrer à tout le monde là, notre idée comme
que c'est
ça.
Possible.
On a rencontré
vous n'avez pas vu nulle part de produit qui se compare à ça, là?
Non. C'est certain que quand on va dans tous les congrès, on voit les bonnes vieilles solutions qui reviennent un peu tous à la même chose, là, avec mm-hmm. une plaque à l'intérieur dans le soulier. Ça peut être fait en fibre de carbone avec tous des matériaux hyper modernes,
oui. High-tech, mais...
mais ça reste c'est le même principe.
C'est du low-tech fabriqué avec des produits high-tech.
Exact.
Ouais. Ben, ça va être tout pour aujourd'hui, messieurs. Je suis désolé de couper court, mais voilà, le temps file. On avait avec nous M. François Côté et également M. Stéphane Savard, les cofondateurs de TurboMed, une entreprise de la région de Québec qui maintenant fait le tour de la planète pour tous les gens qui ont le pied tombant. Merci, messieurs.
Merci.
Au revoir.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, always built to last on weak and shifting sands. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seem somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. when I was young.
Ah ben ça, je suis sûr que ça vous a mis de bonne humeur. Hein? Voilà, alors je m'excuse, il fallait que je le dise, mais Charles Aznavour était un artiste complet et planétaire. On l'a entendu plutôt en français, plutôt dans l'émission. En parlant de planétaire, on a maintenant avec nous Christiane Campagna, notre recherchiste qui fait le tour du monde en 80 minutes, ou moins.
Oui, mais on va commencer modestement en matière de distance.
Aujourd'hui. Sur la rive sud.
Oui, on s'en va à Longueuil. Il y a tout un débat ces jours-ci concernant l'accessibilité du site web de la ville de Longueuil. Mm-hmm. Alors, tout d'abord, il y a l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil, l'OTAL, qui a écrit une lettre à la ville de Longueuil leur disant que leur nouveau site web comporte de grandes lacunes en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, particulièrement celles ayant un handicap visuel. On s'est dit déçus de constater que la ville n'avait pas retenu leur demande de consulter des experts en amont du projet. On a adressé une lettre donc au président du comité des partenaires du plan d'action à l'égard des personnes handicapées, M. Tommy Théberge, et on disait bon voilà qu'on était déçus comme ça, mais il y a eu une réponse de la ville de Longueuil.
Oui. Qui ont dit un peu « c'est pas de notre faute ».
Ben voilà, là on dit bon, notre fournisseur avait confirmé que le site internet respectait les standards édictés par le gouvernement du Québec. La ville de Longueuil a d'ailleurs prévu faire un audit externe au lancement du nouveau site, mais ils ont eu des petits problèmes non anticipés avec le nouveau site, avec le moteur de recherche notamment, et l'audit est maintenant planifié pour le printemps.
Oh, ça veut dire que le site ne changera pas avant plusieurs mois.
Ben, c'est ce que ça semble dire, et justement, à cause de ça, eh bien, c'est une réponse qui n'a pas satisfait le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, qui est aussi très actif dans la défense des droits des personnes qui ont un handicap visuel. Et eux aussi ont adressé une lettre à M. Tommy Théberge et ont dit constater qu'encore une fois, les personnes handicapées visuelles ne peuvent pas profiter du contenu d'un site Internet comme tout le monde dès son lancement. Mm-hmm. Donc, ils se disent amèrement déçus qu'encore une fois, les principes et règles de base que, selon eux, tout bon concepteur de site web devrait connaître, que ça n'a pas été respecté et surtout testé en amont. Et qu'encore une fois, eux aussi appuient sur le fait que ça souligne l'importance de travailler en collaboration avec le milieu quand on fait quelque chose, puisque ce milieu-là les connaît les pièges. Encore une fois, le RAM lui souligne qu'eux non plus n'ont pas été consultés pour cette réforme. Et ils posent des questions, ils s'étonnent que ça n'ait pas été évalué avant la mise en ligne. Ils se demandent, si c'était pas prêt, est-ce que c'était si urgent de le mettre en ligne?
Il y a un aspect un peu ironique. J'ai déménagé à Longueuil il y a 4 jours. et j'ai donc navigué sur le site de la ville de Longueuil. Et oui, conceptuellement, le site est bien fait dans le sens comment il est découpé, la logique des choses, comment il s'adresse aux citoyens qu'il consulte. De ce côté-là, ça va bien. Mais oui, à titre d'handicapé visuel, je peux vous dire que c'est pas toujours facile de faire cette navigation. Voilà.
On a d'ailleurs souligné qu'il ne fonctionnait pas toujours très bien avec les logiciels de lecture d'écran, comme Jazz. Et ça montre, encore une fois, et c'est le RAM qui le souligne bien, c'est dans ce cas-là, pourquoi le lancer? On avait eu le même problème avec l'application de Radio-Canada qui avait des problèmes sur certaines plateformes. Je parle de l'application audio. On avait reçu à Canalem les gens, ils ont dit oui, mais dans quelques semaines, ça va être réglé. Mais pourquoi ne pas avoir attendu ces quelques semaines-là pour faire le lancement en grande pompe?
Oui, voilà. Mais c'est ça. Enfin, il y a souvent d'autres impératifs qui, malheureusement, passent devant les besoins d'accessibilité d'une partie des usagers. On peut peut-être s'attendre à ce que la ville de Longueuil ne laisse pas ça en plan. Et avec la réplique du RAM, peut-être se sentiront-ils obligés de revenir et d'accélérer un peu. Monsieur Tommy Théberge, que plusieurs dans la communauté handicapée visuelle connaissent bien, on le sait, Monsieur Théberge est lui-même handicapé visuel. Alors, ça doit le coincer un peu. Je dis ça sans malice, là. Ça, c'est certain.
On va suivre le dossier. Oui. On va continuer de suivre ça. Maintenant, on s'en va aux États-Unis. La compagnie NBC Universal a décidé de faire sienne, en fait, les recommandations d'une fondation qui s'appelle la Ruderman Family Foundation. Mm-hmm. Et eux ont des recommandations, des engagements, en fait, qui recommandent à prendre en matière de faire passer des auditions aux acteurs en situation de handicap. Mm-hmm. Alors, voici les recommandations de cette fondation-là qui ont été adoptées par NBC Universal.
D'accord.
C'est que nous reconnaissons que le handicap est au cœur de la diversité et que les personnes handicapées sont souvent confrontées à l'exclusion devant et derrière la caméra. Nous comprenons qu'en augmentant le nombre de personnes qu'on passe en audition, quelle que soit la taille du rôle, eh bien que c'est une étape cruciale vers l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'industrie du divertissement. Et donc, qui vont de ce fait augmenter désormais le nombre d'auditions pour les personnes en situation de handicap.
Et là, ce sera à ces personnes-là de démontrer leur talent et de démontrer qu'ils sont aussi bons ou bonnes qu'une personne valide. Et à partir de là, ben là, le jeu est égal. Voilà.
Mais l'idée, c'est de penser aussi aux acteurs en situation de handicap pour des rôles...
En situation de handicap, oui.
Oui, pour des rôles qui ne sont pas... non plus, ou c'est pas ça
la problématique.
La storyline,
oui,
là,
exact, c'est
que
ça.
On a besoin, par exemple, d'un avocat ou d'un commis qui accueille un des personnages. Pourquoi ne pourrait-il pas être en situation de handicap?
Oui, parce que c'est normal que quelqu'un en situation de handicap puisse être soit commis, avocat ou n'importe quel autre travail ou, je dirais, rôle dans la société. Et non pas, comme vous le dites, Christiane, que ce soit l'essence de l'histoire de parler de la personne soit très, très courageuse et inspirante ou terriblement malheureuse.
Et il y a un aspect qui est mentionné, mais là, on parle seulement des auditions ici, mais on parlait de devant et derrière la caméra.
Mm-hmm.
Parce que souvent, la représentation des personnes en situation de handicap à l'écran pourrait être grandement gagnée du fait que dans le reste du processus créatif,
oui.
Et pas seulement quand vient le temps de distribuer les rôles, mais que plus en amont, quand on conçoit une série, par exemple, ou un film où il sera question, notamment de handicap, s'il y a des personnes qui travaillent pour la compagnie de production, qui mm-hmm. travaillent pour le réseau,
oui.
Ben là aussi, on aura une meilleure représentation.
Un réflexe plus évident. Et c'est amusant parce que vous dites en amont pour la deuxième fois, hein, parce qu'il était question de ça tout à l'heure.
J'ai longtemps travaillé à proximité d'écluses.
Oui. Parce que c'est tout à l'heure, on parlait de pourquoi est-ce qu'on n'a pas consulté en amont quand on parlait du site sur la Rive-Sud, là. Puis maintenant, bien, on dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait les productions télé ou cinématographiques uniquement après le fait. On va dire, ah oui, ce serait bon que le type au coin de la rue qui attend son transport adapté soit en mobilité réduite, là. Et c'est pas juste ça, mais... Il faut commencer quelque part.
Mais... Oui, mais c'est un terme important à mon dans le sens où il faut arrêter d'attendre de lancer des choses et de laisser la responsabilité aux personnes en situation de handicap de dire « Ah ouais, mais non, finalement, ça ne fonctionne pas. » On pense à l'American with Disability Act aux États-Unis fonctionne beaucoup comme ça, il faut faire des poursuites.
Oui, tout à fait.
Pour faire appliquer la loi.
Il y a une loi, vous, et l'entreprise ne la respecte pas, ben battez-vous, mais vous avez au moins une loi, donc votre avocat aura quelque chose à dire. Mais ça, c'est pas en avant. Ça, c'est très, très en aval. Ça, c'est rendu dans l'estuaire. Mais il y a des succès quand même. Et ici, à Canal M, on peut se targuer d'être des pionniers.
Bien, on a la seule, à ma connaissance, en tout cas, la seule émission littéraire, au Québec, en tout cas, c'est certain, dédiée exclusivement aux livres audio.
Mm-hmm.
Alors, le livre audio, on l'a longtemps associé, justement, aux personnes ayant un handicap visuel, ensuite de plus en plus aux personnes ayant des troubles d'apprentissage.
Mm-hmm.
Et maintenant, c'est un peu tout le monde aussi qui aime ce format. Et l'émission des livres plein les oreilles, quel beau titre, hein?
Oui.
L'émission de notre collègue Clotilde Seille, ben, ce sera sa 200e ce jeudi 4 février à midi. Et pour l'occasion, elle nous invite à réentendre des entretiens qu'elle a eus avec des auteurs marquants. Je pense à Kim Thuy, je pense à Dany Laferrière,
mm-hmm.
qui est dans l'Académie française. Alors, vous pouvez réécouter tout ça. Donc, l'émission est diffusée jeudi midi. Ensuite, elle sera disponible, comme la plupart de nos émissions, ensuite, sur notre site web tout de suite après. Et elle est aussi disponible en balado, notamment là, si vous vous abonnez à vos balados via iTunes.
Oui, parce que ça, c'est 200 émissions dans l'univers médiatique, là, ça n'arrive pas à tout le monde. Un sujet dont le besoin de diffusion est immense. Et d'autant plus d'avoir tenu ça pendant deux émissions. On lève notre chapeau à notre collègue et d'avoir ce qu'on appelle communément un best-of aussi. Ça permet de retrouver les meilleurs moments de l'émission.
Et oui, et l'émission n'en est pas à sa 200e, mais notre collègue Camille Chair reçoit cette semaine Anne Delmico et Kevin Lamy à l'émission Les Passions de Camille. Et je vous invite à aller réécouter, quand elle sera disponible cet après-midi, une entrevue que notre collègue Hélène Denis a fait ce matin au sujet de l'aphasie avec l'animatrice José Boudreau et son conjoint. C'était vraiment une émission, une entrevue fort passionnante.
C'est déjà disponible, je le pense.
Ça le sera après dîner.
Oui, on me le dit que celle-ci est disponible. Bravo. Ben, merci beaucoup, Christiane Campagna, notre recherchiste qui a fait le tour de la Rive-Sud en moins de 11 minutes. Et également Jean-Sébastien Laliberté, celui qui nous rappelle que c'est déjà la fin.